la puissance de la parole de Dieu. La puissance de la parole de Dieu, c'est une émission qui vous emmène dans la révélation de la parole de Dieu afin de vous restaurer et vous ramener dans le plan de Dieu pour votre vie. La puissance de la parole de Dieu, une émission qui vous communique la vie sur tous les plans. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. C'est tous les lundis de 21h à 21h30. La puissance de la parole de Dieu, que Dieu bénisse votre écoute.
Chers auditeurs et auditrices de la radio, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. N'importe où vous êtes actuellement, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de voir en quoi réside le succès du croyant en Christ. C'est-à-dire, comment le croyant en Christ peut réussir dans sa marche avec Dieu. Comment le croyant en Christ peut avoir du succès dans sa vie de tous les jours. Et nous sommes en train de voir qu'il y a certains nombres d'éléments qui contribuent au succès de l'homme. Que l'homme, le succès, n'est pas un hasard, mais la résistance des connaissances et des actes que nous posons. Lorsque vous avez la connaissance de quelque chose, cela vous permet de bien utiliser la chose. Et lorsque vous avez la connaissance, cela vous donne le pouvoir d'agir. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le succès du croyant en Christ dépend, un, de sa connaissance de Dieu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il connaît de Dieu? Comment il voit Dieu? Nous avons déjà parlé de cela. Deuxième chose, la connaissance de la parole. Parce que n'oubliez pas, Dieu dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Donc, une fois, si nous connaissons notre Dieu, il est très important que nous puissions connaître aussi sa parole. Parce que c'est pas sa parole qu'il a créé toutes choses et c'est pas sa parole qui soutient toutes choses. Et Dieu et sa parole, les deux font un. Donc, si vous connaissez Dieu et vous rejetez sa parole, vous n'aurez pas de résultat. Si vous dites que vous connaissez Dieu, mais vous n'obéissez pas à sa parole, vous faites ce que vous voulez, vous serez seulement chrétien de nom, mais vous ne pouvez pas avoir la victoire escomptée. Et bien aimé dans le Seigneur, en quoi réside le succès de croyant en Christ? On a dit, un, d'abord dans la connaissance de son Dieu, deuxièmement dans la connaissance de la parole, et maintenant troisièmement dans la connaissance de sa propre identité. Le croyant en Christ doit connaître son identité. C'est la troisième connaissance dans laquelle nous nous trouvons depuis un certain moment, où nous avons déjà souligné que celui qui est né réellement de nouveau, celui-là qu'on appelle le croyant en Christ, c'est-à-dire celui qui a écouté la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qui a cru à cette bonne nouvelle en donnant sa vie à Jésus-Christ, en confessant de tout son cœur que Jésus-Christ est son sauveur et Seigneur personnel. Donc cette personne qui a cru du cœur et qui l'a confessé de sa bouche, la Bible déclare que cette personne-là, c'est une personne sauvée. Mais cette personne-là, la part de Dieu lui donne plusieurs attributs. Ces attributs nous permettent de connaître notre identité en Christ. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient en Christ, il doit savoir ce qu'il est devenu en Christ. Et nous avons vu l'autre fois que le vrai croyant en Christ, c'est celui qui est né de nouveau, est un enfant de Dieu. Et je vous ai dit, rappelez que les enfants des présidents de la République sont toujours fiers. Et il peut marcher fièrement et il ne s'inquiète de rien parce qu'il sait que si quelqu'un les touche, la personne aura affaire à leur papa. Et bien aimé dans le Seigneur, n'oubliez pas, Dieu est plus que les présidents du monde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout le qui a reçu Jésus-Christ, c'est un enfant de Dieu. Première identité que tu dois connaître. Si tu viens avoir la victoire, toi qui m'écoutes là, toi qui es un enfant de Dieu, il est temps que toi qui es un croyant en Christ, qui vas à l'église, il est temps que tu cesses de te paniquer. Il est temps que tu puisses s'asseoir et pour découvrir qui tu es en Christ. Premièrement, si tu as reçu Jésus-Christ de Nazareth, il faut savoir que tu es un enfant de Dieu. Deuxièmement, nous avons vu que le vrai croyant en Christ est aussi le juste. c'est un juste de Dieu sur la terre. Ce n'est plus un pauvre pécheur. Comme on dit à cette époque, c'est pourquoi moi, je suis tellement très vigilant quand on demande à quelqu'un de lever la voix et de prier. Et que la personne prend la prière et dit que, ah, oh Dieu, pardon à nous, qui sommes les pauvres pécheurs, je quitte rapidement sur lui parce que je ne suis plus un pauvre pécheur en Christ, mais je suis la justice de Dieu manifestée sur la terre. Et bien aimé dans le Seigneur, le vrai croyant en Christ, c'est un juste de Dieu sur la terre. Ce n'est pas qu'il a fait quelque chose pour être juste, mais la justice lui a été imputée à cause de l'œuvre accomplie et achevée de Christ. Maintenant, nous allons voir encore une autre identité de croyant en Christ. Troisième identité de croyant en Christ. Le croyant en Christ est un saint de Dieu. Tu m'écoutes, chers auditeurs, auditrices? Le croyant en Christ est un saint de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on parle des saints de Dieu, on ne veut pas parler des gens qui sont morts. On ne veut pas parler des religieux et des religieuses qui sont morts et que maintenant, après leur mort maintenant, on suppose qu'ils sont devenus des saints auxquels on peut adresser des requêtes et ils vont nous exaucer. Ça, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu a dit. Laisse-moi te dire ceci. Il n'y a aucun mort qui peut faire quoi que ce soit à quelqu'un de vivant sur la terre. Je le répète. Aucun mort, même si c'est ton père, même si c'est ta femme, même si c'est ta maman, même si c'est ton mari, même si c'est ton frère, même si c'est quelqu'un qui t'aime, même si c'est ton pasteur, même si c'est n'importe qui, même si c'est un chef religieux, après sa mort, il ne pourra rien pour toi. Et vous devez comprendre que la vie chrétienne est liée à la personne de Christ. Vous n'avez pas besoin d'invoquer des saints par-ci, par-là. Ce qu'on appelle des saints, qu'on va invoquer, jusqu'à ce qu'on les a dédiés même, de fait, on appelle fête de tous les saints. Bien aimé dans le Seigneur, il faut dire simplement, c'est le culte des morts. Et la parole de Dieu déclare que lorsque quelqu'un quitte cette terre, il n'a plus rien à voir sur cette terre, jusqu'au jour où le jugement va s'établir. Ou même jusqu'au jour où Christ va revenir sur la terre pour ceux qui le connaissent, où ils vont vivre le millénaire avec lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ah, tu pourrais me dire, mais le prophète, mais tu dis qu'un croyant en Christ est un saint. Donc toi-même, tu dis la même chose. Oui, le croyant en Christ est un saint de Dieu. C'est un saint de Dieu. Donc, je ne parle pas du croyant qui est mort. Toute personne qui a reconnu l'œuvre du salut accompli par Jésus-Christ, par sa mort et par sa résurrection, et qui a accepté ce sacrifice, en croyant de tout son cœur que Jésus est le Messie, que Jésus est le sauveur de sa vie, Jésus est le sauveur de l'humanité, Jésus est le rédempteur du monde, et qui, de tout de son cœur, crie maintenant à Dieu, en confessant de sa bouche que Jésus-Christ est son sauveur et Seigneur personnel, et qui a pris l'engagement de marcher avec Jésus, cette personne-là est un saint de Dieu. Donc quand la Bible parle des saints, il ne parle pas des gens qui sont décédés. Il parle des vivants, de ceux-là qui ont reçu Jésus pour être sanctifiés par le sang précieux de Jésus. Lisons dans Romains chapitre 1. Ça va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Romains chapitre 1, lisons à partir du verset 5 à 7. Et besoin pas de verset 4 pour que nous puissions comprendre de qui on parle au verset 5, sinon ça va vous donner. Déclarer fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs et auditrices, chers frères et sœurs en Christ, nous venons de lire Romains chapitre 1, versets 4 à 7. Et on nous montre ici clairement que à cause de l'œuvre accomplie de Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde avec puissance et avec l'esprit de sainteté, par sa mort, par sa résurrection, on dit que nous avons reçu de Christ la grâce et l'apostolat. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, pendant à ceux, aux croyants en Christ, ceux-là qui sont à Rome et qui ont accepté l'évangile, qui ont cru à l'évangile et qui se sont baptisés au nom de Jésus, ceux-là, Paul, il a écrit cette lettre. Et dans cette lettre, il les montre clairement que ce n'est pas Jésus-Christ que nous avons eu la grâce et qu'ils ont reçu le ministère d'apostolat qu'ils sont en train d'exercer. Ce ministère qui a pour but d'amener les gens à l'obéissance de la foi au nom du Christ Jésus. C'est-à-dire que l'apostolat, l'apôtre dit que c'est en Christ Jésus qu'ils ont reçu la grâce. Et l'apostolat, c'est-à-dire le ministère d'apôtre, pour amener les païens à l'obéissance de la foi au nom de Christ Jésus. Et il dit, ces païens, parmi lesquels vous êtes aussi, c'est-à-dire que les Romains, il dit vous-même, Romains là, vous êtes des païens. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas des croyants, vous êtes des païens, des idolâtres. Mais il dit, vous aussi, vous faites partie des païens qui ont été appelés par Jésus-Christ. Et il dit maintenant à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu. Donc, tous ceux qui sont à Rome, qui sont bien-aimés de Dieu. Qui on appelle bien-aimés de Dieu? C'est les croyants en Christ qu'on appelle bien-aimés de Dieu. Il dit, ces croyants en Christ sont les bien-aimés de Dieu. Ils sont appelés à être saints. Vous voyez? Donc, Paul s'adresse aux vivants. Paul ne s'adresse pas aux morts. Et Paul s'adresse à l'église de Rome. Quelle église de Rome? C'est-à-dire que les croyants en Christ à Rome, s'ils s'adressaient à eux, il dit ce sont les bien-aimés de Dieu qui sont appelés à être saints. Donc Paul n'écrit pas ici aux morts. Parce que les morts ne peuvent pas lire. Et bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre. Donc, quand on parle des saints de Dieu, on veut parler de ceux-là qui sont sauvés, de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a lavé, a purifié et sanctifié par son sang. Bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre cela. Parce que en Jésus-Christ, nous sommes devenus saints. Nous sommes devenus saints. Si vous lisez avec moi, dans le livre de Hébreux chapitre 10, Hébreux chapitre 10, au verset 10, dans Hébreux 10, 10, il dit ceci, c'est en vertu de cette volonté, quelle volonté, de ce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu, à savoir mourir pour nous les pécheurs, afin que nous soyons rachetés pour Dieu. Il dit, c'est en vertu de cette volonté, où Dieu n'agrée plus ni les sacrifices, ni les offrandes, ni les holocaustes pour le péché, mais il veut quelqu'un qui va faire sa volonté. C'est quoi Christ est venu? Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous entendez? À cause de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas que nous sommes sanctifiés, hein, que nous sommes sanctifiés. Vous voyez ce que ça veut dire sanctifié? Sanctifié, ça veut dire que rendre saint. Donc nous sommes rendus saints en vertu de la volonté de Dieu qui s'est accomplie en Jésus-Christ par sa mort et par sa résurrection. Il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Vous entendez? Nous sommes sanctifiés. Ce n'est pas que nous le serons. Déjà, nous étions des pécheurs avant de connaître Christ. Quand nous sommes venus maintenant à Christ, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu déclare clairement que le sang de Jésus qui nous a rachetés du péché et de la mort, pour faire de nous un enfant de Dieu, pour ce sang-là, nous avons reçu aussi la sanctification, c'est-à-dire ce sang nous a lavé, nous a purifié de tous nos péchés une fois pour toutes. Et c'est pourquoi, au verset 14 maintenant, de Hébreux 10, le Seigneur, la parole de Dieu déclare, car par une seule offrande, Jésus a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ah! Donc, on dit par l'offrande de Jésus-Christ à la croix, par l'œuvre accomplie et achevée de Christ. La Bible déclare par cette seule offrande-là, Jésus, Dieu a amené à la perfection tout pour toujours. Ce n'est pas pour un temps, pour toujours. Ceux qui sont sanctifiés. Quels sont ceux qui sont sanctifiés? C'est ceux-là qui ont cru en Jésus. C'est ceux-là qui ont accepté l'œuvre rédemptrice de Christ. Et bien aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, donc vous devez faire alors beaucoup attention. Le véritable croyant en Christ, c'est une personne sanctifiée par le sang de Jésus. Non seulement sanctifié une fois, mais sanctifié pour être à Dieu pour toujours. Et non seulement il était sanctifié, mais par cette œuvre rédemptrice, par cette œuvre sacrificielle de Christ, la Bible déclare que tous ceux qui viennent à Christ, Dieu vous a amené à la perfection par cette offrande à les sanctifiant. Bien-aimés dans le Seigneur, ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut pas être autrement si vous connaissez les Saintes Écritures. Parce que la part de Dieu est tellement claire que nous devons comprendre. C'est vrai, je le répète, nous étions des pécheurs à cause de la chute de notre ancêtre Adam. Notre ancêtre, l'ancêtre de la race humaine, Adam, et du fait qu'ils sont tombés dans le péché s'est étendu à tout le monde. Dieu, maintenant, dans son amour, dans sa grâce, a décidé de libérer l'homme du péché, a décidé de sauver l'homme du péché, et il a décidé de lui-même payer le prix du péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Jésus va subir cette mort. Mais en subissant cette mort, il y a autre chose qui se passe derrière le rideau. Derrière le rideau, qu'est-ce qui se passe? Dieu est en train de faire un échange avec nous, les pécheurs et Christ. Christ a pris sur lui nos péchés et nous a cédé sa place de saint. Il a pris sur lui notre condamnation et nous a cédé sa place de juste. Il a pris sur lui notre mort et nous a cédé la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, en menant la croix, fait toutes choses, voilà, accompli toutes choses. Voilà pourquoi lui-même, avant de relâcher son âme, avant d'expier, il a dit, tout est accompli. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible déclare que lorsque nous venons à Christ, nous devenons une même plante que Christ. Romains 6, lisons Romains 6, le verset 5 à 6. En effet, on va parler du verset 4 pour que nous puissions comprendre. Romains 6, on va parler du verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? On dit, du fait que nous sommes baptisés en Jésus, ça a été une démonstration tangible de ce que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ensevelis avec lui. Et que quand Christ est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi avec lui pour marcher à nouveauté de vie. C'est-à-dire, dans la vie nouvelle reçue en Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi le baptême ne doit pas être trafiqué. Le baptême d'eau ne doit pas être trafiqué. Lorsque quelqu'un est plongé dans l'eau, au nom de Jésus, c'est-à-dire que cette personne déclare qu'il est mort et enseveli avec Christ pour le péché, pour le monde. Et lorsqu'il est relevé de l'eau, cela signifie qu'il est ressuscité avec Jésus-Christ. Non plus pour vivre pour le monde, non plus pour vivre pour lui-même, mais pour vivre maintenant la vie nouvelle, la vie de sainteté, la vie de victoire reçue en Christ. Et voilà pourquoi il dit ici, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons à nouveauté de vie. En effet, verset 5 maintenant à 6, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, avec qui? Avec Christ. Donc, parce que vous regardez, par la mort de Jésus-Christ, par les autres baptêmes, nous sommes identifiés à Christ. Et la Bible, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ça veut dire que celui qui a reçu Jésus-Christ, celui qui est né de nouveau, cette personne devient une même plante, c'est-à-dire devient conforme à Christ. Et ça veut dire quoi? Donc que la personne est morte pour ses péchés au travers de Christ, et il est ressuscité aussi par la résurrection de Christ pour la vie nouvelle. S'il en est ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé alors? Voilà, c'est ce que le verset 6 explique. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant. Donc c'est quelque chose que vous devez savoir, chers croyants, chers auditeurs, auditrices. Si vous venez à Jésus et vous donnez votre vie à Jésus-Christ, votre vieil homme, qu'est-ce qu'on appelle le vieil homme? La nature adamique, la nature pécheresse, qui se tourne dans cette nature-là. Par la mort de Jésus à la croix, c'est cette nature qui a été crucifiée avec Christ. avec le corps du péché. Vous voyez? Donc il y a le vieil homme, maintenant il y a le corps du péché. Le corps du péché, c'est quoi? C'est ce corps qui est habitué autrefois à vivre dans le péché. Avec le corps du péché fut détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Donc en Jésus-Christ, le pécheur d'autrefois, lorsqu'il vient à Jésus, la Bible déclare que ce péché-là, non seulement la vie, le vieil homme qui est en lui est crucifié à la croix, mais le corps du péché qui manifeste cette nature n'a plus de pouvoir, aussi détruit, n'a plus de pouvoir sur lui. Pourquoi? Parce que, croyant là, n'est plus esclave du péché. Donc vous entendez, le vrai croyant en Christ n'est plus esclave du péché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est né réellement de nouveau ne vit plus dans le péché. Je ne dis pas qu'il ne peut pas tomber dans le péché. Je dis, ne vit plus dans le péché. Vivre dans le péché et tomber dans le péché, c'est deux choses différentes. Celui qui ne connaît pas Christ, il vit continuellement dans le péché. Et ça lui dit, au contraire, il voit que c'est normal. Lorsqu'il détourne de l'argent, il voit que c'est normal. Lorsqu'il laisse sa femme et va chercher des femmes pour les amener dans les champs de passage, il trouve que c'est normal. Et lorsque le croyant, il dit, non, moi je ne suis pas là, je ne suis pas là pour ça. C'est la vie de sanctification, c'est la vie de sainteté, c'est ma femme seule, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de courir dans des bois de nuit, je n'ai pas besoin de courir dans les hôtels, dans les champs de passage. Mon corps, c'est le corps de Dieu, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui n'est pas né de nouveau va les ridiculiser. Il dit quoi là? Il me dit que lui là, il est saint. Et vous aussi, vous refusez. Vous êtes saint. Et c'est ce qui m'énerve chez les croyants. Ah, tu veux me dire maintenant que tu es saint? Oui, autrefois, j'étais comme vous. Mais maintenant que j'ai reçu Christ, Jésus-Christ m'a sanctifié. Je suis un saint de Dieu. Pourquoi vous avez honte de dire cela? Regardez Romains 6, verset 14. Il dit, car le péché n'aura point, vous entendez, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Voici encore un second élément qui permet aux croyants de ne pas vivre dans le péché. Non seulement le croyant n'est pas sous la loi, deuxièmement, le vieil homme qui est là, a été détruit par Jésus-Christ à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi, quand vous lisez maintenant au verset 22 de Romains 6 là, on dit, maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Donc maintenant que nous sommes dérivés, libérés de l'esclavage du péché, et pour appartenir maintenant à Dieu, pour être esclave maintenant de Dieu, c'est ce que les croyants ne savent pas. Nous avons, Jésus-Christ nous a rachetés. Il nous a rachetés de quoi? Du péché et de la mort. Et pour que nous devions maintenant quoi? Nous devenions maintenant, non seulement enfants de Dieu, mais nous devions esclaves de Dieu. C'est-à-dire que nous devions dépendants maintenant de Dieu. Et ainsi, lorsqu'on dépend de Dieu, le fruit que nous manifestons, c'est la sainteté. Et la fin de cela, c'est la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs et auditeurs, voilà pourquoi l'apôtre Paul ayant compris tellement cela, c'est ce qu'il écrivait aux églises. C'est pourquoi il les appelle des saints. Regardez par exemple, Éphésiens 1.1. Éphésiens 1.1, vous donnez quelques exemples. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Vous entendez? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez comment Paul, l'apôtre Paul, il salue les Éphésiens. C'est-à-dire que ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui étaient en Éphèse. Vous voyez comment il les salue? Il dit, moi Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Vous voyez comment il appelle les Éphésiens? Les croyants en Christ à Éphèse, là, Paul les appelle comment? Les saints. Ils appellent aussi les fidèles en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes. Et si vous ne reconnaissez pas que vous êtes saint, vous n'allez pas chercher à marcher dans la sanctification. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui luttent inutilement contre le péché parce qu'ils ne connaissent pas leur identité et ils n'acceptent pas qu'ils sont saints. Quand un saint tombe dans le péché, ça lui fait mal. Il se repent, il confesse cela et rapidement, il continue la route. Mais celui qui ne connaît pas Christ, quand il tombe dans le péché, ça ne lui dit rien. Au contraire, il est content d'avoir commis le péché. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons beaucoup attention. Chers frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre. Vous lisez encore Colossiens. Colossiens chapitre 1. Vous lisez Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2, vous allez voir. Lorsque Paul veut saluer aussi les Colossiens, c'est-à-dire les croyants en Colosse, regardez comment il les appelle encore. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Vous voyez encore? Donc, les croyants en Christ sont des saints, sont des fidèles en Christ. Ce sont des saints de Dieu sur la terre. Ce sont des fidèles en Christ. Si vous n'acceptez pas ça là, comment vous allez chercher à marcher dans la sanctification? Voilà pourquoi beaucoup ont donné la vie à Jésus-Christ, mais ils continuent toujours de mener la vie du péché. Parce qu'ils n'ont jamais connu, ils n'ont jamais compris que par le baptême, ils sont déjà morts avec Christ pour le monde. Morts pour le péché, ils ont été ensevelis avec Christ. Et quand ils sont sortis de l'eau du baptême, maintenant ils s'identifient à Christ dans sa résurrection. Quand Christ est ressuscité avec un nouveau corps. Et bien aimé dans le Seigneur, le péché n'a pas de pouvoir sur le croyant en Christ. Un, parce que Jésus-Christ a détruit à la croix, a crucifié à la croix le vieil homme. Et le corps du péché a été détruit. Deuxièmement, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pour ça que pouvoir nous arrêter, regardez Philippiens 4, Philippiens chapitre 4, versets 20 à 22. Regardez comment les gens, comment Paul demande de saluer les croyants qu'ils étaient à Philippe. Comment il dit, à notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À notre Dieu, soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Verset 21. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Vous entendez? Philippiens 4, verset 20 à 22. Il dit, saluez tous les saints. Verset 22 dit, saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. Verset 22. Tous les saints vous saluent. Et principalement ceux de la maison de César. Vous voyez? Donc les saints sur la terre, ce sont les croyants en Christ. Les saints, ce ne sont pas des religieux ou même des chefs religieux qui sont morts et qui ont été canonisés. Non, ça c'est de l'idolâtrie. Un saint, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ pour être sanctifié, purifié de ses péchés et pour devenir une même plante que Christ. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul, ici en parlant aux Philippiens, il dit, saluez-moi tous les saints en Christ qui sont à Philippe. Et il dit, mais les frères qui sont avec moi, Paul là, il vous salue de tous les saints et principalement ceux de la maison de César. C'est-à-dire que les croyants en Christ qui habitaient dans la maison de César, il dit, eux tous ces saints-là, vous saluez aussi vous les saints de Philippe. Si vous ne commencez pas à agir ainsi, et vous, quand vous voyez votre frère, au lieu de voir en lui un pécheur, vous voyez un saint de Dieu, vous allez voir que la vie chrétienne va changer et la vie de pureté, de sanctification va prendre corps. Le problème est que vous regardez tous comme des pauvres pécheurs et vous avez des pensées de pécheurs. Vous n'avez jamais pensé, vous n'avez jamais imaginé, vous n'avez jamais proclamé votre identité que vous êtes saint de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un saint de Dieu. Tu es un saint de Dieu. Et tu dois comprendre que celui qui a reçu Jésus-Christ n'est plus esclave du péché, mais il est esclave de Dieu. Et il a pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et que sa faveur repose sur vous. Nous remercions beaucoup le Seigneur pour sa fidélité et pour son amour, parce que c'est des enseignements qui peuvent nous aider à avancer. Malheureusement, le temps est tellement court et ça ne nous permet pas d'aller en profondeur des choses que nous passons là maintenant. Un enseignement que nous pouvons faire en deux ou trois séances, on s'est en train de faire maintenant plusieurs séances avec ça. Et c'est parce qu'il y a tellement plusieurs identités et ce que nous allons vous révéler. Par la grâce de Dieu, le Seigneur nous accorde la grâce d'avoir pris du temps. Soyez bénis et que le Seigneur bénisse notre chef et le bénisse. Amen.
Vous venez de suivre la puissance de la parole de Dieu. Elle est animée par le prophète Adankon Emmanuel de la Mission internationale pour la restauration humaine et l'évangélisation. L'église est située à Akwakwa, en face de Ciné Concorde, dans la Von appelée Von Sokodo. Voici nos programmes. Mercredi et vendredi, à partir de 19h30, cours biblique. Dimanche, premier culte en français de 8h à 10h30. Deuxième culte en goût de 10h30 à 13h. Les derniers dimanches et les jours de fête, le culte est unique, accompagné de témoignages à partir de 9h. La puissance de la parole de Dieu. Contact 95 40 98 52 97 48 46 01. Que Dieu bénisse ce que vous avez écouté.